Nzamba.
Nzambira samirana.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal en français, donc voici d'abord les principaux titres. Quatre personnes ont été tuées la nuit d'hier dans la province de Cibitoke par des inconnus. Un reportage à suivre en début de ce journal. Le parti Sawanya Podebou interpelle la commission Vérité et Réconciliation à étendre ses enquêtes sur les autres crimes qui ont endeuillé le Burundi. Son parti soutient cette commission pour dire que les événements de 1972 étaient un génocide contre les gens de l'ethnie Hutu. Le ministère de la Justice promet de faire exécuter les jugements rendus et rester dans les tiroirs dans les tribunaux de résidence. Une campagne d'exécution commence le 20 courant. Voilà pour le sommaire de ce journal. À la présentation, Joséphine Johnson-Mudimana. Soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Criminalité pour commencer ce journal. Quatre personnes ont trouvé la mort la nuit d'hier dans la province de Cibitoke. La première victime est un homme qui a été tué à l'arme blanche dans la commune de Mugina de la province de Cibitoke. À côté de cela, ce sont trois corps sans vie qui ont été retrouvés dans la commune de Buganda. À Muramvya, une autre personne a été grièvement blessée par balle la nuit dernière. Vanessa Moïteka nous en dit plus.
L'homme retrouvé mort est un quinquagénaire. Il a été tué à coups de machette par des individus qui n'ont pas encore été identifiés, selon des sources sur place. La victime habitait la zone de Budiba de la commune de Mugina au nord-ouest du pays. Le motif du crime n'a pas encore été déterminé, mais des voisins relèvent que l'homme tué était soupçonné de pratiquer la sorcellerie. Ses proches dénoncent ce crime et réclament une enquête pour faire la lumière sur son meurtre. Nous n'avons pas encore pu joindre par téléphone l'administrateur de la commune Mugina pour plus de détails. Dans la même province de Cibitoke, trois corps sans vie en décomposition ont été découverts par la population ce jeudi vers 10h à la transversale 6 au pied de la colline d'Ondava village dans la commune de Buganda. Ils étaient ligotés, attachés et emballés dans une même bâche selon le journal en ligne Net Press. Les victimes et les circonstances de leur mort n'ont pas été élucidées, mais l'administrateur de Buganda, cité dans le même journal, indique que les trois corps sans vie n'ont pas été identifiés et privilégie l'hypothèse selon laquelle ils ont été tués ailleurs et que leurs corps ont été emmenés dans son ressort administratif. Il a ordonné l'humiliation des victimes pour préserver la bonne santé de la population. Autre province, autre cas de criminalité, un jeune homme a été grièvement blessé par balle en province Muramvya. Laurent Douayez, la trentaine, a reçu deux balles à la cuisse selon des proches. Il a été pris en embuscade par des inconnus alors qu'il rentrait chez lui. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi aux environs de 19h30 dans la localité de Murambi. C'est dans la commune et province Muramvya, au centre du pays.
Merci Vanessa Muiteka. Cinq personnes, dont deux militaires burundais et trois civils, un burundais et deux congolais, Banyamulenge, sont en détention préventive dans la prison centrale de Mimba depuis bientôt un mois. Le motif de leur détention n'est pas encore connu. Le point avec Blaise Nijimbele.
Ils ont tous été arrêtés en date du 16 et 18 septembre 2021. Le nommé Prosper Ngogaza Bagabo a été interpellé par les agents du service national des renseignements le 7 septembre devant les bureaux de la police de l'air et des frontières. Le même jour, il a été arrêté deux Congolais de la communauté de Banyamulenge, Brice Bahanda et Sebakandura Mutoni. Après les interpellations, ils ont été détenus dans un cachot secret du service national des renseignements. Une journée après, il a été arrêté deux militaires, un officier et un sous-officier. Il s'agit du lieutenant-colonel Benoît Barungura, commandant en second du 11e bataillon blindé, et l'agida-chef Alcide Segaterama, qui travaille actuellement au secrétariat permanent du ministère de la Défense nationale. Ils ont été tous arrêtés par les officiers du service national de renseignement, le nommé Joseph Mathias Nyonzima, surnommé Kazungu, et Alexis Ndaitengurukiye, surnommé Nguruka. Ils ont été gardés dans un cachot secret pendant plus de 20 jours. Personne ne pouvait imaginer leur sort, et même certains de leurs proches croyaient qu'ils étaient déjà morts. des sources de radio Inzamba auprès des agents du Service national de renseignement révèlent que Prosper Ngogazabagabo et les deux Banyamulenge ont été rudement torturés. Ils ont été tirés de son cachot secret le 7 octobre courant pour être présentés aux magistrats du parquet qui ont décidé les transferts à la prison centrale de Mhimba.
Mais quelle serait l'identité de ces personnes arrêtées? Quelques éléments de réponse avec Beni Axelakana.
Le premier, Prosper Ngogazabagabo, est un Burundais qui avait pris part aux manifestations contre le troisième mandat de feu président Nkurunziza. Il s'était réfugié en Ouganda dans le camp des réfugiés de Nakival. Au mois de janvier 2021, il a été dans une vidéothèque qui circulait sur les réseaux sociaux incitant les réfugiés burundais de rentrer au pays. Cette attitude lui a valu d'être taxé par les réfugiés de Nakival dans Imbonerakure, agent du Service national des renseignements burundais. Il est rentré au Burundi au début du mois de septembre. Il est parti à Bujumbura avec deux Congolais de la communauté des Banyamulenge qui ont été arrêtés en même temps que lui. Bruce Baranda et Sebakanura Mutoni. Le lieutenant-colonel Benoît Barungura, SS 0999 de la matricule, commandant en second du 11e bataillon blindé, est natif de la commune Musigati en province Bubanza. Il serait agent des renseignements militaires G2. Le cinquième est le sous-officier adjudant-chef Aristide Segaterama, SC 1788 de la matricule, qui travaille actuellement dans un bureau du secrétaire permanent au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il est lui aussi agent des renseignements militaires G2. Les mêmes sources font savoir qu'il serait à l'origine des persécutions de ses frères d'armes, ex-FAB, en orchestrant des montages contre eux. Il aurait également participé dans les enlèvements de certains d'entre eux. Il est natif de la commune Bugavira, en province Kirundo. Il serait également caractérisé par un comportement discriminatoire envers ses frères d'armes ex-FAB, continuent les mêmes sources. Dans nos prochaines éditions, nous vous parlerons des non-dits sur leur arrestation.
Renforcer la sécurité et la cohabitation des citoyens entre les provinces frontalières de Cibitoke et la province de l'Est, respectivement au Burundi et au Rwanda, a été la conclusion d'une rencontre des gouverneurs des deux provinces ce vendredi à la frontière commune de Lourwa. Le gouverneur de Cibitoke a expliqué que c'est dans ce cadre des malfaiteurs qui sèment la zizanie dans l'une ou l'autre de ces deux régions seront remis pour jugement. Écoutez au PC1, Karem Bizoza, il est gouverneur de la province de Cibitoke.
Donc, c'est convenu, c'est que les administrateurs de Rugombo, Mabayi et Mugina doivent se rencontrer au moins une fois, une fois par mois, avec le maire de la ville de Rusizi. Cela facilitera à voir là où on est arrivé sur les recommandations qu'on s'est entendu. Et concernant les gouverneurs, on s'est entendu qu'au moins une fois, les 6 mois, il faut qu'on se rencontre et voir là où on est selon les recommandations qu'on a données à nos subalternes. Nous, en tant que gouverneurs de provinces, on n'a pas le droit de dire on va ouvrir demain ou après-demain. Mais c'est la volonté politique, c'est la volonté du pays. Lorsque la santé, on verra que le COVID-19 est disparu dans les deux secteurs, j'espère que ceux qui prennent la décision vont prendre la décision d'ouvrir, de réouvrir la frontière de Rwanda. Nous lançons un appel pour en ce qui concerne la population de deux côtés. Chaque fois, veillez à ce qu'on n'aille pas faire dévier l'eau, la rivière, et que cette population puisse veiller elle-même à la collaboration avec de l'autre côté.
Inzamba.
La suite de cette édition, les massacres de 1972 constituent un génocide contre les Burundais de l'ethnie Hutu selon le parti Sawanya-Fodebu. Dans une conférence de presse animée ce vendredi à Bujumbura, le président du parti Pierre Claver Nahimana a demandé à la CVR de poursuivre ses enquêtes jusqu'aux autres crimes commis au Burundi après 1972 et qui se commettent jusqu'aujourd'hui. Suivez Pierre Claver Nahimana.
Sans préjudice aux conclusions auxquelles aboutira la commission Vérité et Réconciliation. La position du parti Sonia Frodebo sur les événements de 1972 demeure échangés depuis 1992. Il s'agit d'un génocide des Bahutus du Burundi commis par le pouvoir politique dirigé par le colonel Michel Micombero à l'époque des faits. Ce pouvoir est également responsable d'autres crimes contre l'humanité, dont des Batutsi et d'autres Barundi, par confusion ou étiquetés de monarchistes, ont été victimes au cours de la tragédie nationale de 1972. Le 29 avril 2022, un demi-siècle sera passé depuis que le Burundi aura été soumis à ces dures épreuves par l'État et ceux qui détenaient le pouvoir. Le Parti Sahrawi-Frodebu juge que tous les partenaires nationaux et internationaux concernés par la réconciliation du peuple burundais doivent conjuguer leurs efforts pour que cet anniversaire soit l'occasion d'arriver à des conclusions communes construites sur la vérité des faits vécus au cours des événements de 1972. En conséquence, le Parti Sahrawi-Frodebu, tout en appréciant l'énorme travail déjà accompli par la Commission Vérité et Réconciliation, lui recommande d'accélérer ses travaux et d'en transmettre les résultats aux institutions prévues par la loi pour qu'au cours de l'année 2022, le peuple burundais arrive à assumer collectivement les événements auxquels il a été soumis par le pouvoir en place à cette époque. Invite les institutions de l'État, le Parlement, le gouvernement et le pouvoir judiciaire, les partis politiques, les forces morales, notamment les confessions religieuses, les associations de la société civile, les médias, à s'investir chacun en ce qui le concerne et accompagner de manière irréversible le peuple burundais dans sa marche vers la proclamation officielle de la vérité sur les événements de 1972. Chacun a le devoir d'être un acteur engagé pour une sincère réconciliation nationale par rapport à la tragédie de 1972. Il recommande à la Commission Vérité et Réconciliation de redoubler d'efforts pour le traitement des autres périodes qui ont suivi l'année 1972, à travers lesquelles le peuple burundais a vécu des épreuves également douloureuses jusqu'à nos jours.
Dans le domaine de la justice, une campagne d'exécution des jugements civils rendus au premier degré par les tribunaux de résidence est prévue très prochainement dans tout le pays. Cette campagne d'un mois débutera le 20 octobre 2021. Dans un point de presse animé ce vendredi, Cynthia Irakoze, porte-parole du ministère de la Justice, demande aux justiciables de vérifier dans les meilleurs délais s'ils sont sur les listes disponibles au niveau des tribunaux de résidence. Suivez.
Le ministère de la Justice porte à la connaissance du public en général et des justiciables en particulier qu'il est prévu une campagne de constat et d'exécution des jugements civils rendus au premier degré par les tribunaux de résidence à partir du 20 octobre jusqu'au 20 novembre de l'année en cours. Le ministère de la Justice rappelle à ses justiciables qu'une période allant du 12 au 18 octobre 2021 leur a été accordée pour se rassurer qu'ils sont inscrits sur les listes disponibles au niveau de ces tribunaux. Celui qui constatera que son dossier ne figure pas sur la liste devra saisir le responsable de cette juridiction pour redresser la situation. Et cette activité se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Les présidents des tribunaux de résidence sont appelés à faire tout devoir utile pour la bonne marche de cette activité.
Inzamba. Parlons éducation à présent. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas continuer à dire qu'il n'y a pas de moyens suffisants pour résoudre les problèmes qui gangrènent le secteur de l'éducation et surtout le manque d'infrastructures, selon Faustin Dikumana, président de l'ONG locale La Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Il estime que le budget alloué au secteur de l'éducation est suffisant, mais que le problème se trouve au niveau de l'affectation du budget dans les différentes rubriques. Il a dit dans une conférence de presse qu'il a organisée ce vendredi. Suivez Faustin Dikumana.
Nous disons non. Par exemple, on a fait tout ça que nous avons des informations. La province de Kirundo a besoin de 28 000 pupitres. 28 000 pupitres, si on prend le coût d'une pupitre de 30 000, ça veut dire que la province de Kirundo a besoin de 840 millions pour l'achat des pupitres. C'est en dessous d'un milliard. Même si on exagère au niveau national, un milliard par province, 17 milliards. consacrer à chaque étude, c'est un montant dérisoire par rapport au montant de plus de 300 milliards, 325 milliards alloués au ministère de l'éducation, et qui ne consacre que moins de 5% à l'investissement et à l'équipement. On a aussi un budget de plus de 280 milliards, 289 milliards, l'année passée de 234 milliards d'investissements sur son propre. Quels sont le contenu de dépenses de l'investissement sur les fonds propres d'environ 234 milliards. Et on constate un endettement vertigineux de plus de 2 000 milliards, un endettement intérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'endette sans toutefois équiper nos écoles? Le meilleur des cas serait de dire on s'est endetté, mais nos écoles sont bien équipées, on remboursera, mais quand même l'endettement a servi à améliorer les conditions de travail de nos enfants. C'est pour cela que vraiment nous demandons à l'amélioration de la transparence dans la gestion budgétaire. La réaffectation budgétaire actuellement est d'une nécessité impérieuse. Au mois de décembre, on devrait procéder à la révision budgétaire pour disponibiliser ces fonds. Et aussi, l'État doit savoir se concentrer sur les missions fondamentales, les missions prioritaires qui sont les siennes, au lieu de disperser les fonds, achat de maïs ici et là. Il faut qu'il se concentre sur ces missions, là où il est efficace, les missions qui lui reviennent. Il faut se renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle budgétaire.
Dernier dossier de ce journal, la succession des filles et l'implication de la femme dans les instances de prise de décision sont les problèmes majeurs à résoudre pour l'émancipation de la femme rurale. C'est le constat du mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi, Namahoro. C'est au moment où on célèbre ce 15 octobre la journée internationale de la femme rurale. Ce mouvement appelle les femmes à la détermination et de lutter pour leurs droits. Suivez Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro.
Les femmes rurales, dans beaucoup de ménages, elles ont toutes les obligations, mais elles n'ont pas de droits. On dirait que notre culture n'accorde aucune valeur à la femme. Pourquoi ne leur donnerait-on pas le capital, l'accès à la terre, notamment par le droit à l'héritage au même titre que les garçons, leurs frères, de même parents, vu que nul n'a choisi de naître fille ou garçon. Je saisis cette opportunité pour rappeler cette loi sur l'héritage des filles que le Burundi n'a jamais votée, ce qui retarde à mains égards le développement des femmes, des filles et de tous les pays, tout en étant une injustice à l'égard des femmes et des filles, bien sûr. Un autre problème à résoudre sera l'implication des femmes dans tous les mécanismes de prise de décision en ce qui concerne la planification et la programmation des projets de développement des communautés. Il faut que les femmes soient impliquées, il faut que la dimension genre soit prise en compte dans tout ce qui est adopté. Je ne saurais terminer sans laisser un message à toutes les femmes burundaises. Chères sœurs, en ce jour mémorable où nous célébrons la femme rurale, saisissons l'occasion pour redire ensemble notre solidarité et notre détermination à voir la femme en meilleure position, juste et équitable et économiquement autonome et d'une manière durable.
Et bien voilà, c'est par la voix de Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.